Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
On est de retour sur les ondes de CFAQ 88.3. On reste dans le domaine scolaire, Jérémy, parce que...
Ouais, on va changer un petit peu, là, en fait. On va parler un petit peu, c'est ça, de la politique américaine et c'est ça, de leur angle sur, justement, les études supérieures.
Qui s'invite dans les universités. La politique s'invite dans les universités.
Ouais, c'est une bonne façon de le dire, tu sais... Comme j'ai essayé de traduire le titre parce que j'ai repris un peu le titre d'un article que j'ai lu. Fait que je l'ai traduit en « La fin de jeu autoritaire pour les études supérieures ». Fait qu'un peu imaginer ouais, le ouais. Endgame d'un jeu d'échecs. Mais c'est ça, fait que là, c'est l'autoritaire qui est endgame pour les études supérieures. Fait que ouais, c'est ça, quand qu'un... Pour vous donner une idée, lorsqu'un dirigeant politique cherche un petit peu à transformer une démocratie en un régime plus autoritaire, surprise, il s'attaque souvent aux sources indépendantes d'informations et de responsabilités. Il tente aussi de délégitimer les juges, et de marginaliser les agences gouvernementales autonomes et de museler les médias. Surprise.
Ouais.
Président Vladimir Poutine de Russie l'a fait au cours du dernier quart de siècle. Dans une moindre mesure, le premier ministre de Hongrie, ou sinon le premier ministre Narendra Modi de l'Inde et le président Erdogan de Turquie qui ont suivi, c'est ça, un petit peu des démarches similaires ces dernières années. Pour tous ceux qui ne savaient pas, c'est ça, l'Inde a une dérive autoritaire quand même assez grave ces dernières années, ce qui est quand même triste, considérant que c'est la plus grande démocratie au monde,
ouais.
Mais elle l'est de moins en moins. Ces dernières années, notamment justement par la presse qui se fait beaucoup museler depuis ce temps-ci. Donc, en gros, c'est ça. L'affaiblissement de l'enseignement supérieur, ça constitue souvent un élément clé, en fait, de cette stratégie-là. Les chercheurs universitaires sont censés poursuivre la vérité et les autocrates naissants reconnaissent que la vérité empirique peut menacer leur autorité. Et là, je cite M. Poutine, qui l'a lui-même dit, « Les guerres sont gagnées par les enseignants. » lui et M. Erdogan ont fermé les universités. Le gouvernement, ça, de Modi, a fait arrêter des universitaires dissidents. Et M. Orban a confié la gestion de l'université à des fondations loyales à son régime. Évidemment, là, le président Trump n'a pas encore poussé aussi loin l'érosion de la démocratie que ses autres dirigeants. Mais il serait quand même assez naïf d'ignorer ses premières tentatives d'imitation.
Ouais.
Il a entre autres limogé des inspecteurs gouvernementaux, des chefs militaires, des procureurs et des experts en sécurité nationale. Il a aussi tenté des procès contre des médias et menacé d'en réglementer d'autres. Il a aussi suggéré que les juges étaient impuissants à limiter son autorité, affirmant sur les réseaux sociaux « Celui qui sauve son pays ne viole aucune loi ». Donc, sa campagne multiforme contre l'enseignement supérieur s'inscrit justement dans cette volonté d'affaiblir les institutions qui ne répètent pas sa version de la réalité. Et avant tout, il met en place ou envisage des réductions budgétaires majeures pour les universités. Son administration a annoncé des coupes drastiques dans les financements fédéraux, couvrant les coûts indirects de la recherche scientifique comme le loyer des laboratoires, l'électricité, l'élimination des déchets dangereux. Un juge fédéral a d'ailleurs temporairement suspendu ses coupes. Le vice-président J.D. Vance et d'autres républicains ont appelé à une forte augmentation de la taxe des dotations universitaires adoptée par M. Trump lors de son premier mandat. Ensemble, ces deux mesures pourraient réduire les budgets annuels de certaines universités de recherche de plus de 10%. Trump met également l'enseignement supérieur sous pression d'autres manières. Le ministre de l'Éducation a licencié environ la moitié de son personnel, rendant potentiellement plus difficile l'accès des étudiants aux aides financières. La quasi-suppression de l'Agence des États-Unis pour le développement international, USAID, USAID, en tout cas, je suis pas exactement sûr comment il la prononce, mais a entraîné seule l'annulation de 800 millions de dollars de subventions, rien que pour l'université Johns Hopkins. Le 7 mars, l'administration a ciblé une université en particulier en annonçant la suppression de 400 millions de dollars de subventions pour Columbia, entre autres en représailles à sa réaction jugée insuffisante face à l'antisémitisme sur son campus. On comprend d'ailleurs pourquoi Puis tu sais, sur une autre note, là, on comprend pourquoi de nombreux Américains se méfient de l'enseignement supérieur. Ouais. Ils ne se sentent pas concernés. Les universités d'élite peuvent donner l'impression d'être des terrains de jeu pour les jeunes privilégiés qui cherchent uniquement leur propre réussite. Les établissements un petit peu moins élitistes, notamment les collèges communautaires, affichent souvent des taux d'abandon élevés qui laissent les étudiants endettés sans diplôme. Mmh. Et les enseignants du supérieur, des fois, peuvent sembler vraiment déconnectés de la réalité avec des opinions politiques largement ancrées à gauche.
Oui, parce qu'en plus, ça coûte extrêmement cher d'aller à l'université aux États-Unis.
Oui, c'est ça, exact. Bon, puis, il y a ce discours-là, justement, il a tout le temps existé de comme, ah ben c'est des gens qui, c'est ça qui...
C'est juste des fortunés qui peuvent accéder aux études supérieures. Puis...
Dans une moindre mesure, ici, il y a une mobilité sociale là, qui existe, ouais. Qui c'est clair et net, ouais. Elle est définitive. Je suis pas quelqu'un qui vient d'un milieu ultra pauvre avec parents violents, mais tu sais, je viens pas de la grande richesse, mettons, on va dire ça. Ouais, ouais. Et je suis un exemple d'une mobilité sociale claire, tu sais, dans ma famille. Tu sais, comme mon père a un secondaire, tu sais.
Ouais, ouais, ouais.
Ma mère est allée au cégep, elle l'a lâché. Tu sais, ça a donné une idée. Mais tu sais, c'est ça, c'est quand même un exemple de mobilité sociale. Ouais, clair, elle existe. Puis bien que ça me coûte super cher d'être ici, je vais m'en sortir, tu sais. Je vais rembourser des dettes, mais tu sais, on s'en sort. C'est pas inatteignable.
Non.
Mais, fait que cette vision-là ultra-élitiste des universités québécoises, est moins là qu'elle l'a déjà été. Elle existe quand même, tu sais, clairement qu'il y a un... tu sais, puis on le voit aussi dans le politique, les politiciens qui ont un parler et une attitude, justement, un peu plus... bonhomie, qui affiche une certaine bonhomie, peut-être, ou une... Tu sais, François Legault, il parle vraiment comme monsieur, madame, tout le monde, puis il y a une certaine... Lui, même si justement il a été un grand dirigeant, il faisait partie vraiment des élites, il a quand même été capable de réduire ce gap-là, je pense, et sembler plus proche des citoyens que beaucoup de politiciens ont pu le faire.
Ouais, je peux comprendre, ouais, c'est vrai. Ouais.
On peut le faire par
c'est
le
moins,
passé.
C'est moins intellectuel comme, mettons, un Michael Ignatieff au Parti libéral du Canada, que c'était, tu sentais que c'était un monsieur qui... Ou Stéphane Dion. Stéphane Dion serait peut-être un meilleur exemple. T'sais, lui, il est lettré, il a fait des études.
C'est ça, exact.
Là, il est diplomate en ce moment, là. Fait que, c'est...
Oui, c'est ça. C'est des...
Mais que charismatiquement parlant, c'était moins ça, là. Ça avait l'air d'un vieux monsieur.
J'ai oublié, j'ai vraiment un blanc. Là. Comment s'appelait le premier ministre qui a mené, entre autres, un des référendums, c'est qui n'est pas l'évêque? Là.
Jacques Parizeau.
Oui, Parizeau. Ça, c'est un bon exemple. Lui, il paraissait lettré universitaire, ultra réfléchi. Est-ce que Bruno a fait mal, justement, à cette tentative de...
Mais ça fonctionnait quand même. Oui. Les gens l'écoutaient quand même. Là,
oui, c'est ça.
Ils
disaient
pas, oh, ce monsieur intelligent. Mais...
ça, c'est un exemple de justement qui a été capable de détruire un peu cette image-là. Mm-hmm, ou en tout cas, de se l'approprier adéquatement, justement.
C'est vrai.
Complètement l'image différente de René Lévesque.
Oui, c'est ça.
Son surnom, c'était Tipoil. Ouais. Tu sais, c'est mon oncle qui est en politique.
Ouais, c'était Monsieur Parizeau.
Oui, c'est ça, exactement. Ça, ouais. Fait que, tu sais, cette image-là de l'élite universitaire existe encore aujourd'hui. Elle est vraiment moindre, tu sais, au Québec ou au Canada. Tu sais, on n'a pas cette image-là de... On n'a pas Harvard, tu sais, on n'a pas Cambridge, tu sais.
Ouais, c'est ça, le prestige universitaire. Ouais,
c'est ça, on n'a pas ce prestige-là. Et on n'a pas forcément des moins bonnes universités, là, ça,
tu
sais.
Non, du tout.
Tu sais, moi, je pense que c'est une fausse image où, tu sais, même si, justement... Il y a une... Bon, les chaires de recherche de Harvard et Cambridge, on va s'entendre, ils ont pas le même budget que les nôtres. Là.
Non, effectivement.
Ça, c'est clair et net, mais quand même, tu sais, il y a une revalorisation, justement, élitiste un peu peut-être associé à ça. Avant que je continue, justement, avec ma chronique, je pense qu'on va aller en petite pause publicitaire, puis on va finir ça. On va finir ça juste après.
On peut faire ça très rapidement. Donc, restez bien branchés sur les ondes de CFA 88.3. On vous revient pour la conclusion de l'émission de cette semaine.